Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Arrêter de fumer, convaincre un proche de le faire, la journée mondiale sans tabac nous donne l'occasion une nouvelle fois de pointer les risques liés au tabagisme, les raisons de renoncer comme les méthodes pour y arriver et peut-être aussi de prendre tout simplement cette grande décision. Cigare, chicha, tabac prisé ou achiqué et bien sûr cigarette, ce geste qui au départ peut procurer du plaisir, de l'apaisement, devient vite une habitude difficile à abandonner. Un vrai besoin, difficile pour certains, y compris d'envisager l'arrêt du tabac. Malgré les efforts en matière de prévention, malgré les chiffres qui attestent de ces dangers, la cigarette tue un fumeur sur deux, 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Et une fois que la décision est prise, passer des paroles aux actes et surtout ne pas rechuter, de renoncer au tabac, c'est ce choix qu'ont fait 1 million de fumeurs en France au cours de l'année dernière. Baisse historique, à en croire l'étude que vient tout juste de publier Santé publique France. Ce résultat, les autorités sanitaires l'expliquent par l'augmentation du prix du tabac, l'instauration du paquet neutre, le recours plus fréquent aux substituts, peut-être aussi plus généralement un changement de mentalité. Baisse qui, pour une fois, concerne y compris les fumeurs issus de milieux modestes et porteuses d'espoir, puisqu'elle atteste aussi d'un désintérêt croissant de la jeune génération qui, contrairement à ses aînés, plutôt que d'arrêter de fumer, choisit, elle, de ne pas commencer. Et on vous retrouve pour cette journée mondiale sans tabac. Professeur Bertrand Dotzenberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tabacologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, secrétaire général de l'Alliance contre le tabac. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec le docteur Oumar Ba, pneumo-oncologue à l'hôpital général Grand Diop de Dakar, coordinateur du programme national de lutte contre le tabac au Sénégal. Toutes vos questions, vos témoignages, bien sûr notre numéro, n'hésitez pas à nous appeler, 33 84 22 75 75. Et en fin d'émission, vous retrouverez la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, sexologue.
Priorité santé sur RFI.
C'est tout dernier chiffre de la consommation de tabac en France que l'on va pouvoir commenter en votre compagnie, professeur Bertrand Dotzenberg. Consommation en baisse. Même si au sein de l'Europe, hein, il faut le souligner, professeur Dotzenberg, les Français restent encore de gros consommateurs de tabac.
La France diminue sa consommation de tabac par grande marge d'escalier, non de façon continue comme les autres. Ça avait été, lors de la loi Evin en 91, ça avait été très bien, on était les leaders. En 2003, avec le premier plan cancer, on avait repris un petit peu le leadership. Et puis après, on s'est complètement endormi, alors que les autres pays continuaient à diminuer leur consommation. Et là, il y a une vraie reprise qui est faite, parce que là, les bons résultats qu'on a actuellement sont un résultat en grande partie liés au ministère précédent, de ce qui s'est passé avant. Et depuis un an, avec notre nouveau gouvernement, il y a plein de très bonnes mesures qui sont prises et je pense que l'année prochaine, on aura des résultats encore meilleurs à annoncer pour la journée mondiale sans tabac 2019.
Alors justement, cette consommation en baisse, professeur Bertrand Dotzenberg, vous qui êtes tabacologue, est-ce que vous la ressentez, on va dire, en général, dans les attitudes dans la rue ou c'est simplement quelque chose qui se chiffre ?
Non, c'est quelque chose qui se ressent, quelque chose qui se voit. On voit qu'il y a deux fois moins de cancers du poumon chez les jeunes hommes en France. C'est quelque chose qui est mesurable. On voit que la mortalité cardiovasculaire diminue beaucoup en France et l'arrêt du tabac joue un rôle majeur. On voit qu'à la sortie des écoles, il y a toujours trop de fumeurs, mais il y en a beaucoup moins. Quand j'ai commencé à faire des enquêtes avec Paris sans tabac en 91, c'est plus de la moitié des élèves sortaient fumeurs. Maintenant, c'est moins de 20% qui sont fumeurs réguliers à 18 ans. Donc on a une diminution, le tabac se ringardise complètement chez les jeunes, les chiffres de Santé publique France sur les 18-24 ans au niveau national montrent une baisse importante et on a des inégalités au niveau de la France, c'est-à-dire par exemple on fume beaucoup moins à Paris qu'en Île-de-France et que en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou dans les Hauts-de-France par exemple.
Alors précisément cet après-midi vous allez dévoiler des chiffres dans le cadre de cette enquête Paris sans tabac, précisément la capitale, les jeunes fument moins, comment on les explique cette différence territoriale ou régionale ?
On a toujours, en fonction du niveau de revenu des parents, du niveau d'éducation, de l'information, une diminution. Alors après, comme on est actif sur Paris, on peut dire aussi que c'est les actions de prévention qui sont menées qui sont peut-être aussi efficaces. L'accès aux soins chez les adultes et chez les jeunes est plus important. Mais on voit que chez les jeunes parisiens, ils ont des parents qui fument de moins en moins. Et donc d'avoir des parents qui fument de moins en moins, ça conduit à consommer de moins en moins. Et puis il y a des quartiers ou des départements autour de Paris, par exemple, où on fume beaucoup plus la chicha, la cigarette est complètement
ringardisée.
Il y en a pratiquement plus. Alors que la cigarette est un produit qui crée beaucoup l'addiction parce que ça amène un shoot de nicotine très rapide et c'est très très addictif, plus addictif que tous les autres produits du tabac qu'il ne faut pas prendre non plus, mais qui a un pouvoir addictif qui est considérable et la cigarette c'est vraiment un peu la fin.
Professeur Bertrand Dotzenberg, vous avez parlé rapidement de ces mesures prises ces derniers mois, ces dernières années. Il y a eu ce paquet neutre, hein, sombre, avec un avertissement, des photos, on peut le dire, repoussantes, mais il y a de quoi de toute façon, avec les conséquences du tabac en images, ces images choc, avec un certain nombre de maladies, crachats sanglants, pieds nécrosés. Est-ce que les gens sont sensibles à ce genre de choses ?
Alors, les images qu'il y a sur les paquets, les avertissements en images, sont dans tous les pays européens, c'est une réglementation européenne, et ils sont efficaces, surtout quand ils arrivent. C'est-à-dire qu'au moment, quand il n'y en a pas et qu'ils arrivent, c'est très efficace. Puis après, on s'habitue un petit peu à les voir, mais ça place quand même le tabac comme un produit malsain. Avant qu'il y ait d'avertissement sanitaire, on disait le tabac c'est mauvais, je sais pas. Maintenant, il n'y a plus ni un fumeur, ni un non-fumeur, ni un marchand de tabac qui dit que le tabac, ça pose pas quand même des problèmes. Mais le paquet neutre, c'est autre chose. C'est la suppression des couleurs des marques et des logos des marques remplacés par cette couleur vert uniforme qui est considérablement importante de mon point de vue pour les jeunes. Les jeunes, ils commençaient à fumer pour prendre une marque en fait. Quand ils achètent des chaussures, c'est une chaussure de telle marque, un blouson c'est de telle marque, la casquette c'est de telle marque, le t-shirt c'est de telle marque et le tabac, ils achetaient la marque à la limite à presque avant le produit, parce que c'est un produit de mode. Et là, ils ont plus les repères de la marque, ils savent plus qu'il faut prendre du jaune, du rouge et blanc ou du autre chose. Et c'est quelque chose de très favorable. Et je pense qu'on va avoir d'ici un ou deux ans la preuve de ça. Pour l'instant, c'est une suspicion. On attend les preuves formelles, mais c'est clair que quand on interroge les jeunes, ils sont perdus avec les marques et c'est très bien.
Une question au médecin. Comment est-ce que l'on sait précisément que c'est le tabac qui provoque telle ou telle pathologie? Par exemple, on peut avoir un cancer du poumon parce que l'on respire un air urbain pollué. Comment est-ce qu'on sait que c'est précisément la cigarette qui est en cause, professeur Bertrand Dotzenberg?
Alors, on a des données d'abord sur la pollution. Par exemple, à Paris, s'il y a plus que 50 microgrammes par mètre cube d'air, il y a alerte à la pollution. On en parle partout à la radio. On respire 20 mètres cubes par jour. Donc, s'il y a 50 microgrammes par mètre cube et qu'on respire 20 mètres cubes, c'est 1000 microgrammes par jour. Une bouffée d'une cigarette, c'est 1000 microgrammes de particules de 2,5. Donc, 15 bouffées de cigarette, c'est 15 bouffées. Et si on prend 20 cigarettes, c'est 300 fois l'alerte à la pollution qu'on se met dans le poumon. Sinon, on a la preuve, il y a un lien très statistique très fort entre l'exposition à la fumée de tabac et les maladies. Et surtout, ce qu'on a maintenant, c'est on a un lien très fort entre la régression des maladies et la régression du tabagisme. En particulier, par exemple, je vous parlais du cancer du poumon chez les jeunes hommes. S'il y a 15 ans que ça diminue chez les jeunes hommes, parce que le tabagisme, il y a 25 ans que ça diminue chez les jeunes hommes, alors que chez les femmes, la diminution du tabagisme chez les jeunes femmes est récente. Et c'est de façon tout récente seulement qu'on voit cette diminution, alors que hommes et femmes en France sont exposés au même type de pollution.
Avant de donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé, on va s'arrêter sur ces autres mesures qui ont été annoncées tout récemment, professeur Dotzenberg, notamment le remboursement par l'assurance maladie des patchs anti-tabac dans le cadre du plan Priorité Prévention, c'était il y a 2 semaines. Puis il y a aussi les gommes à mâcher qui contiennent de la nicotine, ce sont 2 substituts. Est-ce que c'est une mesure, vous, tabacologue, que vous attendiez ?
C'est une mesure qu'on attend, on s'est battu depuis 5 ans pour l'obtenir et c'est fait. Là, jusqu'à il y a 2 ans, c'était le gouvernement, l'assurance maladie qui voulait pas. Là, depuis 2 ans, le gouvernement, l'assurance maladie le veulent et les firmes sont en train de passer tout à l'acte et d'ici la fin de l'année, ils seront tous remboursés pareil. L'avantage qu'ils soient remboursés, premièrement, pour un Français qui arrive à avoir des substituts nicotiques, il donne sa carte d'assurance maladie. S'il a une mutuelle, il prend le paquet, il s'en va, il sort pas d'argent. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et surtout pour ceux les plus précaires qui ont des fortes doses de nicotine, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, ça ça place quelque part ces traitements comme quelque chose d'efficace. Parce que si l'assurance maladie les rembourse, alors c'est beaucoup plus efficace. On l'a vu très bien avec un autre médicament qui est un médicament de prescription qui s'appelle la varenicline, qui a été décrié dans tous les sens. Il y a un an et demi, il a été réévalué par l'agence de médicaments et il est remboursé aussi, complètement remboursé pour service médical rendu important, comme on dit. Et ça a totalement changé la place de ce médicament. Maintenant, les gens le tolèrent, l'acceptent et le prennent parce qu'ils sont rassurés. Donc le fait d'être remboursé donne au traitement d'arrêt quelque chose de sérieux. Et tout à l'heure vous disiez que fumer c'est une habitude. Moi je m'élève contre ça. Pour 90% des gens, fumer c'est une maladie, c'est une addiction. Le matin, la première cigarette qu'ils allument dans l'heure du lever, c'est pas eux qui veulent la fumer, c'est leur trip, c'est leur corps qui veut le fumer, c'est leur corps qui exige. Le chef c'est plus le cerveau intelligent, leur chef c'est leur trip. Et donc si on veut se traiter une maladie qui est dans les tripes, qui est pas sous l'action de la volonté, il suffit de donner la bonne dose de croquettes de nicotine à ces récepteurs nicotiniques qui hurlent par des patchs, la vape ou autre chose.
Qui correspondent justement à la consommation quotidienne précisément.
Quelqu'un qui prend 50 mg de nicotine par jour avec des cigarettes, il va prendre naturellement avec des patchs et la grammes 50 mg de nicotine et l'avantage considérable s'il n'a plus de cigarettes. S'il a un apport régulier de nicotine tout au long de la journée, alors ses besoins de nicotine vont diminuer en gros de 1% par jour. Et au bout de 3 mois, il n'aura plus besoin de nicotine.
Ça veut dire, professeur Dotzenberg, que vous conseillez par exemple à quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer quand même d'en parler à son médecin pour qu'il lui conseille la bonne dose pour arrêter.
Alors, on peut en parler en ce sens de prendre la bonne dose, voir si on a les moyens, on peut s'acheter les patchs sans ordonnance, aller acheter des vapes sans ordonnance et le faire tout seul ou le faire avec des copains sur Internet. Fumer, c'est une chance sur deux d'en mourir. Donc, si on peut sortir du tabagisme par la porte, par la fenêtre, par la cheminée, par la cave, tout est bon. Toutes les méthodes sont bonnes pour arrêter de fumer si on s'arrête. Mais si on peut s'arrêter aider, c'est comme d'accoucher sans douleur. C'est plus simple qu'avec une péridurale si on peut. C'est plus simple que d'accoucher dans la douleur et dans la difficulté et sans aucune assistance médicale.
Je suis bien d'accord avec vous. Tout de suite, on va prendre un auditeur de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et ce premier auditeur est en ligne du Mali, de la ville de Kati. C'est Adama. Bonjour Adama.
Oui, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Adama.
Oui, ouais, moi, mon problème, je fume il y a un peu plus de 10 ans. Moi, j'ai tout fait pour arrêter. Mais chaque fois, quand j'arrête, après, je replonge dans le fléau. Bon, j'ai tout essayé dans les médicaments traditionnels, mais ça ne marche pas. Bon, actuellement, la méthode que j'ai pris, quand je vais fumer une mèche, je coupe en deux. Surtout en ce mois de Ramadan, vraiment, ça m'aide quand même. J'essaie d'aller sur ce sens. Mais chaque fois, quand j'essaie d'arrêter définitivement, j'ai des problèmes. Après, je replonge là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter définitivement? C'est ça que je veux.
Adama, vous ressentez cette envie, ce besoin de fumer dès le réveil?
Non.
Vous ne fumez pas le matin en vous levant?
Non, moi, quand je me lève, tant que je ne déjeune pas, moi, je ne fume pas.
Vous dites que vous avez tout essayé. Vous parlez de médicaments traditionnels. Qu'est-ce que vous avez pris précisément?
Ouais, moi, il y a un médicament traditionnel, je l'ai pris. Ça m'a donné envie de vomir. J'ai vomi, mais après deux jours, j'avais plus envie. Mais après, encore, je suis retombé là-dedans. Et je fumais plus. Donc, j'ai laissé ce médicament-là aussi.
Vous dites, j'ai tout essayé. Est-ce que vous avez essayé les substituts, ces petites gommes à mâcher, par exemple, qui contiennent de la nicotine ou des patchs, justement, qui contiennent aussi de la nicotine? Vous avez essayé ça?
Non, moi, je ne connais pas ça.
Vous ne connaissez pas. Professeur Bertrand Dotzenberg.
Non. Dans beaucoup de pays africains, il n'y a pas l'accès aux substituts nicotiniques ou même s'ils sont, c'est hors de prix. Et donc, c'est la situation où était la France avant 1985. Aussi, on n'avait pas de traitement et s'occupait déjà des fumeurs. Donc, la première leçon de ce que nous dit Adama, c'est que d'abord, il faut, si on arrête de fumer, il faut plus jamais y toucher parce qu'après, l'envie revient. Et quand on arrête de fumer, quand on est obligé de fumer tous les jours pendant des années et qu'on arrête de fumer, on n'est pas un non-fumeur. On est un fumeur qui ne fume pas. Et les récepteurs nicotiniques sont là à l'affût pour se réveiller très très vite si on reprend une seule cigarette. Donc là, il faut jouer la facilité. Quand on arrête de fumer, si on se dit qu'on n'en fume plus du tout, plus du tout, plus du tout. Et là, quand vous restez une semaine ou pendant tout un ramadan sans fumer, ce qu'il faut, c'est surtout, surtout pas la reprendre après. Et si vous en reprenez zéro, l'envie est de fumer est faible. Alors que si vous commencez à reprendre une cigarette, l'envie va être plus importante. Sinon, de réduire, ce n'est des objectifs, de fumer les cigarettes par demi-tiers, etc. C'est effectivement une possibilité pour réduire la dose s'il n'y a pas d'accès à de la nicotine autrement que par le tabac. Je trouve très dommage que l'accès au tabac soit facile dans tous les pays africains, que l'accès aux substituts nicotiniques ne soit pas facile, alors qu'à fabriquer, c'est le même prix. Il n'y a pas de raison qu'il y en a un qui soit plus cher que l'autre. En France, la différence de prix est liée aux taxes, mais sinon, on devrait avoir à peu près le même prix pour les deux.
Voilà, Dama, pour ces conseils du professeur Dotzenberg. Très bonne journée pour vous au Mali. On va prendre un auditeur qui est en ligne du Tchad. C'est Salé. Bonjour, Salé.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Bon, vous parlez du tabagisme, donc ça peut aussi englober le chicha, appelé aussi narguilé. Les jeunes djihadistes s'y consomment d'une manière excessive. Soit disant que les lieux de chicha sont des lieux de rencontres, de divertissement avec les amis. Je voudrais savoir, est-ce que le chicha est plus aussi mauvais que la cigarette? Et aussi, est-ce que le chicha peut rendre l'homme impuissant? Parce qu'ils disent aussi parfois cela, et heureusement, je n'ai pas eu la chance de goûter ça une fois. Et comment est-ce que ces jeunes doivent faire pour s'aider de fumer, abandonner le fumer?
Alors, professeur Dotzenberg, plusieurs questions sur la nocivité de la chicha ou du narguilé. Sur les méthodes pour arrêter, même méthode que peut-être pour arrêter la cigarette, je ne sais pas. Et puis sur l'effet de la chicha et peut-être plus généralement du tabac sur la santé sexuelle.
Alors, première question, la chicha, c'est du tabac d'abord. En France, on a un petit peu du mal. Quand on demande aux jeunes s'ils fument, s'ils ne fument pas, il y en a plein qui disent qu'ils ne fument pas, mais qui prennent la chicha. Donc la chicha, c'est quand on fume la chicha, on fume du tabac, point. Donc quand on fume la chicha, on prend l'équivalent en particules fines, en monoxyde de carbone et en toxique, équivalent à peu près d'un ou deux paquets de cigarettes. Donc une chicha, c'est un ou deux paquets de cigarettes en toxique. En nicotine, c'est l'équivalent de une ou deux cigarettes seulement et c'est pris assez progressivement. Donc la chicha, c'est beaucoup plus toxique que prendre une cigarette. En revanche, c'est un petit peu moins addictif. C'est-à-dire, quand on a pris une chicha, on a moins envie de prendre la suivante. Alors, quand on a pris une cigarette, chaque cigarette donne envie de fumer la suivante. La chicha donne moins envie de fumer la suivante. Et souvent, les chichas sont initiés par un phénomène de groupe. C'est-à-dire, quand on fume la chicha tout seul, là, il faut s'inquiéter et on arrive dans l'addiction. Quand on n'est qu'en groupe pour se rencontrer entre amis, il faut essayer de prendre le thé plutôt que la chicha de temps en temps. Alors, la chicha, c'est un produit qui fait beaucoup de fumée toxique. La chicha, c'est que dehors. Il faut jamais prendre la chicha dans un lieu clos et couvert. Comme on fait pas marcher un groupe électrogène dans un lieu clos et couvert, on fait pas fonctionner ou un barbecue, on fait pas marcher la chicha dans un lieu couvert parce que ça pollue beaucoup et ça donne des intoxications. Donc, juste après la chicha, il y a beaucoup de monoxyde de carbone dans le sang et l'érection, par exemple, d'un homme peut être moins bonne dans les 6 heures qui suivent la chicha, c'est une chose. À long terme, après, c'est les mêmes effets que le tabac. Le tabac est un perturbateur endocrinien, donc il modifie les hormones de l'homme et de la femme. Le tabac modifie la vascularisation de la verge et donc diminue la puissance de l'érection. Quand une femme fume et qui veut avoir un bébé, il faut attendre plus longtemps pour que la grossesse se déclenche. On a des données assez précises. Oui, le tabac, c'est pas bon de fumer. C'est quelque chose de pas bon pour la santé. La chicha, comme il y a deux paquets de cigarettes pris en 40 minutes,
on imagine
c'est quelque chose qui est toxique pendant quelques temps.
Donc voilà pour ces réponses. Salé, très bonne journée à vous au Tchad. Nous allons rejoindre maintenant la République démocratique du Congo, Bukavu précisément, où nous sommes en ligne avec Abraham. Abraham, bonjour. Abraham, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Eh bien, on va passer toujours en RDC. Hein. On va cette fois à Lubumbashi. C'est Cleaver qui est avec nous. Bonjour, Cleaver.
Bonjour, Caroline. Comment vous allez?
Ça va très bien. Alors, votre question, Cleaver, on vous écoute.
D'accord. Je voulais savoir quel lien il y a entre la consommation du tabac et les maladies cardiovasculaires et les maladies neurologiques.
Cette question de Cleaver, Bertrand Dotzenberg, c'est vrai qu'on pointe souvent tout ce qui est lié à la santé respiratoire quand on parle tabac, mais il y a aussi une incidence certaine sur la santé cardiovasculaire et éventuellement des effets sur les pathologies neurologiques.
Oui, bonjour chers confrères. Donc sur les vaisseaux, le tabac a deux effets. Un effet d'athérosclérose, c'est-à-dire qui rétrécit les vaisseaux comme le fait le cholestérol, la mauvaise nourriture, etc. C'est quelque chose qui s'installe très progressivement et qui, quand on s'arrête de fumer, se stabilise mais ne régresse pas. Mais l'autre effet du tabac, c'est de favoriser la thrombose, c'est-à-dire c'est un caillot qui se forme dans les vaisseaux et ça survient en quelques jours et si on s'arrête de fumer, ça disparaît en quelques jours. Donc le tabac augmente beaucoup et en particulier chez les jeunes le risque d'infarctus du myocarde, c'est les artères du cœur qui se bouche, le risque d'hémiplégie par accident vasculaire cérébral, une artère du cerveau qui se bouche, et la récupération à l'arrêt du tabac est très rapide de ce risque qui diminue rapidement, alors que pour le risque d'athérosclérose, les effets sont plus longs à s'installer et plus longs à régresser.
Et pour les atteintes neurologiques, donc?
Alors, pour les atteintes neurologiques, donc vasculaires, c'est ça.
Après,
sur le reste du cerveau, il y a quelques données sur la maladie de Parkinson, il y a quelques données mais qui sont vraiment pas probantes et en particulier pour l'Alzheimer et la dégénérescence du cerveau chez les vieillards, ça augmente plutôt le risque et l'effet protecteur qui avait été inscrit au départ était surtout lié au fait que comme les fumeurs ils mouraient avant d'être vieux,
ils étaient moins touchés par la maladie. Vieux, ouais. Alors professeur Bertrand Dotzenberg, là vous avez mis en avant quand vous dites quand on arrête de fumer, il y a des effets qui se voient très vite et ça c'est vraiment un argument puisque même au bout de quelques heures, certaines choses peuvent changer dans l'organisme, notamment au niveau de la circulation sanguine. Et semaine après semaine, mois après mois, on peut vraiment quantifier les améliorations.
Oui, ce qui disparaît plus vite, c'est le monoxyde de carbone. Quelqu'un qui fume, on peut mesurer dans son air le monoxyde de carbone qui est un gaz toxique. C'est le même gaz toxique qu'on mesure dans le pot d'échappement des voitures pour voir si elles polluent, si elles polluent pas. Et quand on arrête de s'enfumer, au bout de 6 heures, il y en a 2 fois moins. Au bout de 12 heures, 4 fois moins, etc. Et le lendemain, c'est mieux. Donc le monoxyde de carbone, c'est une substance qui se fixe sur les globules rouges et qui empêche de transporter l'oxygène. Donc il y a des sportifs qui se shootent à l'EPO pour augmenter le transport d'oxygène pour gagner les courses. Et puis, il y a des fumeurs qui se shootent au monoxyde de carbone pour perdre les courses et pour être poussifs. Donc, si vous voulez être poussif et pas gagner les courses, fumez avant les courses.
Alors, on a oublié de remercier Cleaver hein, pour son appel de Lubumbashi. On a finalement Abraham en RDC à Bukavu. Abraham, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute, Abraham.
Bonjour aussi au professeur.
Bonjour.
Oui, j'ai des questions à poser.
Allez-y.
La première question est de savoir, souvent nous passons autour des personnes qui fument, soit nous les racontons dans des lieux publics, ou en ligne. Alors, ma question est de savoir, la fumée qu'elles émettent, les personnes, ont quel impact ou quelles conséquences sur notre santé, nous qui ne sommes pas fumeurs? La deuxième question est de savoir, une femme, en fait, parfois, elle peut vivre avec une personne qui est fumeur. Une fois, elle respire la fumée de la cigarette que son mari émet. Cela a quel impact sur la santé de l'enfant?
Abraham, c'est deux questions d'Abraham qui sont liées à ce qu'on appelle le tabagisme passif, professeur Bertrand Dotzenberg. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
Alors, on peut répondre que d'abord, la fumée passive du tabac, donc respirée par les autres, est classée comme cancérogène certain par l'OMS. Donc, ça, c'est quelque chose de clair. Qu'il faut séparer deux situations. Une situation, on est exposé en plein air à quelqu'un qui fume à côté de vous en plein air, où il y a un risque, mais le risque est pas très important. Par contre, dès qu'on est dans un lieu clos et couvert, le risque peut être considérable, et ce d'autant que le lieu est petit. Par exemple, fumer à l'intérieur d'une voiture expose à des concentrations colossales de tabagisme. Et la chicha en particulier expose ceux qui entourent les personnes qui prennent la chicha à des quantités colossales de tabagisme. On avait fait des mesures avec des étudiants. Un étudiant qui reste pendant une heure dans un bar à chicha, c'est comme s'il avait fumé 6 cigarettes, alors qu'il n'a rien fumé du tout. Donc on peut prendre des quantités importantes. Donc il ne faut pas être exposé au tabagisme passif à l'intérieur. Et l'idéal, c'est d'avoir dans son pays des lois et des règles qui disent qu'on ne fume pas dans les lieux clos et couverts, qu'on fume qu'en plein air. Pour la femme enceinte, elle est exposée tout à fait au tabagisme passif. Le tabagisme, la fumée de son conjoint ou des autres qui fument autour d'elle va rentrer dans son sang, va pas dans le sang du fœtus, et le monoxyde de carbone dont on parlait tout à l'heure, chez le fœtus, il reste beaucoup plus longtemps, parce que le sang du fœtus est un peu différent, il fixe beaucoup plus longtemps ça, et on a un point de naissance qui est diminué. Il y a une étude qui avait été faite à la maternité de la race, on a vu qu'en gros, si la maman fumait, on avait des bébés qui avaient 800 grammes de moins, mais si la maman ne fumait pas et que le papa fumait, les bébés avaient 300 grammes de moins à la naissance, 10% de moins de points de naissance, ça veut dire 10% de cerveau en moins, 10% de foie, 10% de poumons, 10% de rate en moins. C'est une mauvaise chose, donc il ne faut pas exposer à la fumée du tabac ou de la cuisine. D'ailleurs, les femmes enceintes, quand on fait la cuisine, il faut une cheminée, et quand on fume, il faut aller fumer dehors.
Abraham, voilà pour ces réponses. Hein. Très bonne journée à vous en RDC. On va prendre un dernier auditeur tout de suite, c'est Aboubacar qui est en Guinée, à Conakry. Bonjour Aboubacar.
Bonjour Caroline.
On vous écoute.
D'accord. Je voudrais donner un témoignage.
On vous écoute, oui.
Voilà, j'ai mon père qui a 52 ans. Mais c'est un grand fumeur, je vais dire comme ça. Et lorsqu'il ne fume pas, il a des caractères impulsifs. Il est très nerveux lorsqu'il n'a pas sa cigarette. Et du coup, lorsqu'il a sa cigarette, le sourire revient sur ses lèvres. Dans le salon, il fume partout dans le salon, dans la chambre, dans la voiture, en allant à l'école, accompagne mes soeurs. D'ailleurs, tous les lieux qu'il fréquente sont mauvais. Et puis, c'est lui qui nous a entraînés aussi dans la fière, puisque il nous mettait en commission à chaque moment dans la cité. Donc, vu l'âge d'adolescence, on a tenté, et puis voilà, nous sommes tous là maintenant.
Et Aboubacar, vous-même, vous ne fumez pas? Est-ce que vous fumez aussi?
Ah ben oui.
Ah, vous fumez aussi. Même si vous dites que l'odeur vous dérange, vous fumez quand même?
Ah ben... C'est lui qui s'affiche à ça. Il s'est discuté avec ma maman, mes marates, plusieurs fois. Et puis voilà, finalement, comme c'est lui le patron de la maison, c'est ceci-là on l'a laissé.
Il est peut-être le patron pour un certain nombre de choses, mais peut-être pas pour vous inciter sur cette voie du tabac. En tout cas, cette question qui fait le lien entre le manque de tabac et des manifestations, on va dire, colériques, hargneuses. Professeur Dotzenberg, ça a un effet sur le caractère quand on arrête de fumer parfois et qu'on est justement en situation de manque?
Quand on est en hyponicotine, en manque de nicotine, on est, un, on mange beaucoup et on prend beaucoup de poids, et deux, on a envie de donner des baffes à tout le monde. Oui, c'est clairement ce qu'il écrit, c'est une situation de manque de craving. Donc, en France, c'est assez facile, on donne de la nicotine, cigarette électronique, patch, etc., qui est maintenant gratuit pour tout ce qui est remboursé. C'est plus compliqué dans les pays où on n'a pas accès à ces médicaments. Mais ce qu'il décrit parfaitement de façon, j'allais dire, clinique, comme on apprend aux étudiants en médecine en première année, c'est un syndrome de manque de nicotine. Si son père fume, c'est pas qu'il est mauvais caractère qu'il veut fumer, c'est que son corps exige d'avoir de la nicotine, comme son corps exige d'avoir de l'air, son corps exige d'avoir de l'eau, exige d'avoir à manger, il exige d'avoir de la nicotine. Donc, s'il a une possibilité d'avoir une substitution nicotinique par n'importe quoi, par la cigarette électronique, des patchs ou n'importe quoi, c'est une bonne chose. Et sur le plan de l'humanité, moi je souhaiterais que l'OMS classe les substituts nicotiniques comme des médicaments essentiels, parce que Ce problème du tabagisme chez les adultes en Afrique existait peu avant, parce qu'il y avait finalement peu de fumeurs et puis de cet âge-là. Mais maintenant, ça devient un problème massif et il faudrait qu'il y ait un accès à ces produits. Et si on l'organise bien, on peut avoir un accès à des produits tout à fait honorables. Et on suffit de mettre une bonne taxe sur l'argent du
tabac pour
sur le tabac et donner l'argent pour acheter des produits d'arrêt de tabac.
Voilà, Aboubacar, bonne journée chez vous en Guinée. On va tout de suite partir pour le Sénégal, justement. Autre illustration avec l'avis d'un confrère.
Priorité santé sur RFI.
Oui, c'est en rupture de stock.
Et ce confrère, c'est le docteur Oumar Ba, un de vos confrères, pneumo-oncologue à l'hôpital général Grand Diof de Dakar, coordinateur du programme national de lutte contre le tabac du Sénégal. Bonjour, docteur Oumar Ba.
Bonjour, Caroline.
On a vu avec nos auditeurs tout à l'heure la situation dans plusieurs pays, Tchad, Mali, RDC, Guinée. Aujourd'hui, au Sénégal, est-ce que les gens sont des gros fumeurs? Est-ce qu'il y a une tendance à fumer davantage ou plutôt à réduire la consommation, docteur Ba?
Est-ce que tu peux reprendre, Caroline? Il y a une interruption du téléphone, excuse-moi, je n'ai pas bien entendu.
Docteur Ba, la question c'était simplement pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, la tendance est plutôt davantage à fumer plus ou à fumer moins?
Écoutez, c'est difficile pour répondre à cette question. Bon, nous avons fait une enquête qui a montré quand même qu'il y a 6% de la population sénégalaise qui sont des fumeurs adultes actifs. Et nous déroulons actuellement un programme extrêmement coercitif en termes d'interdiction de fumier et de plutôyer pour que les gens ne fument plus. Nous espérons que la tendance va diminuer, mais nous n'avons pas encore évalué.
Docteur Ba, est-ce que les jeunes se mettent tôt à fumer? Comment ça se passe justement, cette rencontre avec le tabac?
Très tôt, parce que l'enquête que nous avons faite chez les études de surveillance et de biologie chez les jeunes montre que 20% des enfants garçons fument et 11,5% des filles fument. Donc c'est quand même c'est des élèves, des enfants d'âge scolaire. Et donc ça veut dire que dès l'âge de 10 ans déjà, il y a le premier contact avec la cigarette ici au Sénégal.
Très tôt.
Et bien entendu, ouais, c'est très tôt.
Et est-ce que les autorités ont pris la conscience du phénomène? Est-ce que le tabagisme est considéré comme un problème de santé publique au Sénégal?
Ah oui, absolument. C'est pris au plus haut niveau en termes de priorité à ce terme de santé publique. Parce que les jeunes fument très tôt, donc c'est pour ça que nous avons eu une loi depuis 2014 que nous sommes en train de mettre en œuvre, qui a commencé déjà à avoir des réalisations. Nous avons changé des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes. On a mis des photos, des images avec des messages clairs qui montrent que celui qui fume est exposé à des maladies. Nous avons commencé à déployer l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc les gens n'ont pas le droit de fumer dans les lieux publics. Et actuellement, les autorités veillent à ce que ce soit respecté. Et tout ça, c'est pour préserver les gens contre le tabagisme secondaire ou passif, comme on dit couramment. Au niveau des écoles aussi, la loi interdit de vendre du tabac, un débit de tabac à 200 mètres aux alentours des écoles. Ça, c'est pour préserver les jeunes contre la tentation d'avoir du tabac facilement. Il y a aussi une autre disposition phare, c'est l'interdiction de publicité. Quelle que soit la publicité, directe ou indirecte, c'est interdit. Et enfin, la loi aussi, une autre mesure qui est extrêmement intéressante, c'est nous avons interdit tout ce qui est aromatisé. Tout ce qui est tabac aromatisé est complètement interdit. Parce que ça masque les odeurs, ça masque le goût acre du tabac. Et donc, ça fait que les gens ont tendance à penser que ça, c'est moins nocif pour l'autre. Donc ça, c'est des dispositions qui sont actuellement en cours de mise en œuvre. Hein, mais le processus continue. Parce qu'il faut vraiment qu'on arrête cette tendance épidémique qui est en train de prendre l'ampleur chez nous.
Et depuis le début de l'émission, le professeur Dotzenberg, qui est en studio, le soulignait, c'est la difficulté d'accès sur le continent africain aux substituts. Qu'est-ce qu'il en est exactement au Sénégal? Les patchs, les gommes à mâcher, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible ou pas du tout pour la population?
Mais il a parfaitement raison. Je profite de l'occasion pour lui passer le bonjour, monsieur, cher maître, professeur, bonjour.
Bonjour.
C'est le même problème. Nous avons le même problème d'accès aux substituts nicotiniques. Parce que nous, quand nous recevons des patients ou bien des candidats au sévrage, on leur prescrit des patchs, des gommes, c'est hors de prix. Ils achètent une fois après, ils n'achètent plus. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, ce que nous avons proposé au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal, c'est de mettre ces produits-là de façon consciente des génériques et qu'on les mette au niveau de certaines structures, au niveau des pharmacies et au niveau des hôpitaux pour que ce soit accessible. Parce que c'est très lié. On demande aux gens d'arrêter de fumer, mais on ne propose pas une alternative qui soit à portée de main. Donc c'est une réalité. Nous avons un véritable problème pour le sévrage. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons formé des téléconseillers, nous donnons des conseils pour essayer d'arrêter de fumer. On donne aussi des conseils pour le sévrage, mais le véritable problème, c'est la disponibilité, l'accessibilité de ces substituts nicotiniques, qui n'est pas encore, c'est pas le cas encore au Sénégal.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces génériques n'existent pas pour l'instant, pas sur le marché.
Non, ils n'existent pas. Ils sont sur le marché, mais avec c'est des produits de marque. Donc, ce n'est pas
accessible.
C'est pas générique. Non.
Très bien, merci.
Pour situer un parallèle, en France, d'acheter des patchs pour un mois, ça coûte 25 euros. D'acheter des cigarettes pour un mois, ça coûte 250 euros. Donc les substituts nicotiniques sont les moins chers, sont 10 fois moins chers que les cigarettes moyennes. Et il faudrait qu'arriver même au Sénégal, que ce soit le même prix que les cigarettes. C'est-à-dire qu'il faut, au niveau des gouvernements, de l'organisation internationale, je ne sais pas comment il faut faire, mais arriver à avoir dans tous les pays d'Afrique...
Des gestes forts pour l'accès.
Pour l'accès, au moins pour les gens dans le cadre d'une consultation comme c'est organisé au Sénégal. Je dois dire que la France n'a pas tellement de leçons à donner au Sénégal. Ils fument beaucoup beaucoup moins que les Français. Hein. Donc il faut aussi voir les bonnes choses qu'il y a dans les.
Mais les cigarettiers sont peut-être beaucoup plus offensifs sur ces marchés du Sud.
Ils étaient très offensifs. Il y a eu quand même depuis une dizaine d'années des remarquables avancées. Et ce qui est décrit dans l'évolution de la législation sénégalaise est quelque chose qui est remarquable par rapport à la situation d'avant. Le progrès en 10-15 ans a été colossal en Afrique.
Un progrès accéléré. Merci beaucoup docteur Oumarba. Je rappelle que vous êtes pneumo-oncologue à l'hôpital général Grand Diouf de Dakar et coordinateur du programme national de lutte contre le tabac au Sénégal. Professeur Bertrand Dotzenberg, on a parlé de ces différents substituts, patch, cigarettes électroniques, gomme. Est-ce que l'un plus que l'autre marche, retient votre intérêt ou c'est selon chacun, chacune ?
Ce qu'il faut, c'est avoir la bonne dose de nicotine, la même dose de nicotine non fumée qu'on avait fumée. Et aussi longtemps qu'un fumeur a des substituts nicotiniques et est capable de fumer une cigarette en entier, c'est qu'il est en sous-dosage. Donc, quand on est bien dosé, on fume la cigarette, au bout de 4 bouffées, elle est pas bonne. Moi, la plupart de mes patients ont des patchs plus des formes orales qui sont bien souvent la cigarette électronique qui n'est pas un médicament. Donc, on peut tout associer. Il y a zéro problème pour tout associer en sachant que ça marche bien quand ça fait vraiment plaisir. Et toutes les formes orales, que ce soit les gommes, les pastilles ou les cigarettes électroniques, ne marchent bien que quand le fumeur dit, eh ben, ça, j'aime beaucoup. Et s'il aime beaucoup la nicotine non fumée, il va la prendre. Alors que si on lui donne une gomme ou une cigarette électronique qu'il n'aime pas, il ne va pas la prendre et ça ne va pas marcher.
Et les réserves et les questions, justement, au sujet de l'impact que pourrait avoir la cigarette électronique, vous en pensez quoi ? Il y a eu des études, elles sont contradictoires
Selon l'Eurobaromètre 2017, qu'on n'a pas donné en France, il y a 2 500 000 Français qui fumaient, qui ont vapoté et qui sont maintenant ex-fumeurs, ex-vapoteurs. Donc 2,5 millions de personnes de moins qui fument. Pour moi, c'est un énorme succès. Et on l'a vu dans le mois sans tabac, ce qui a été publié cette semaine, dans le bulletin épidémiologique du gouvernement français, c'est que la vape est le premier moyen de recours en France pour l'arrêt du tabac, surtout pour le recours non médicalisé. Et il y a beaucoup de gens, ce qui n'est pas compté du tout dans ce bulletin, qui prennent à la fois des patchs et de la vape qui marchent aussi très bien.
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les pouvoirs publics se donnent vraiment tous les moyens pour dissuader les fumeurs ?
Depuis que 40 ans que je m'occupe du tabac, j'ai toujours vu des ministres de la Santé plus ou moins engagés de façon relativement intelligente, sauf une exception. En revanche, jusqu'à maintenant, on avait le budget qui était contre. Et là, depuis un an, le budget et le ministre de la Santé disent la même chose, vont dans le même sens. Et donc, il y a un grand changement qui est fait parce que les lobbies du tabac ne font plus la politique à Bercy, au ministère du budget français. Donc, la lutte contre le tabac, c'est un problème de santé, mais c'est un problème aussi qui intéresse l'ensemble du gouvernement. Et si le président et le premier ministre sont d'accord, ça marche bien. C'est ce qui avait été le cas avec Jacques Chirac en 2003, avec le premier plan cancer. On avait une diminution considérable du tabagisme. On était passé de 82 milliards de cigarettes à 54 milliards de cigarettes en un an, c'est beaucoup. Et là, on est reparti sur une très bonne diminution, en sachant que les mesures prises depuis l'arrivée du nouveau gouvernement sont sûrement efficaces, et beaucoup plus même qu'avec le gouvernement précédent. Donc on va avoir des très bonnes nouvelles l'année prochaine.
Alors il y a un message Facebook d'un auditeur, c'est Eric qui est à Paris. Souvent les fumeurs disent qu'il est inutile d'arrêter de fumer après 50 ans, que les dommages sont faits. Est-ce que c'est vrai ?
Une grande étude sur 1 million de femmes suivies pendant 10 ans montre qu'une femme qui fume a une chance sur deux de mourir du tabac et de perdre 22 années de vie. Si elle arrête de fumer à 55 ans, elle ne perd plus que 5 années de vie. Donc elle récupère 17 années de vie en bonne santé. A priori, c'est la même chose pour les hommes. Donc d'arrêter de fumer à 55 ans, c'est un énorme bénéfice. On récupère au moins les 3/4 du risque. Mais il y a même une étude japonaise à 75 ans. D'arrêter de fumer à 75 ans, ça améliore la santé futur. Donc il n'y a pas d'âge pour arrêter, mais plus on arrête tôt, mieux c'est.
Et puis on a toujours un entourage qui en tire aussi les bénéfices.
À l'entourage en général ravi. Maintenant en France, d'arrêter de fumer, avant vous étiez celui qui n'a pas de caractère ni rien, maintenant vous êtes plutôt le héros. Et un des avantages de la cigarette électronique, c'est que ça permet d'arrêter de fumer avec la gestuelle, quand on va à la pause cigarette entre guillemets, qui est un très mauvais mot pour des pauses d'ailleurs, parce que c'est de venir avec sa cigarette électronique, on n'est pas gêné, on reste avec les autres, c'est un moyen de contact.
Un changement d'image aussi, peut-être un changement d'attitude en général. Vous parlez, vous, dans votre petit livre édité chez First, le plaisir d'arrêter de fumer. C'est vraiment un plaisir de s'arrêter? C'est ce que vous disent les personnes qui viennent en consultation?
Elle raconte un petit peu, mais surtout, moi, j'observe que tous ceux qui ont du plaisir à arrêter de fumer, ils s'arrêtent. Tous ceux qui le font à effort, en se motivant, etc., en disant que c'est de leur faute, ça ne marche pas. Donc, le plaisir est obligatoire parce que le plaisir marche beaucoup mieux. Et si on a la bonne dose de nicotine, si on est bien substitué, ce qui est possible dans les pays où on a une substitution, on arrête, cool, et à la limite, les gens sont déçus que ce soit si facile. Tiens, j'ai oublié de fumer ce matin.
Ça donne envie d'arrêter, mais c'est déjà fait. Professeur Bertrand Dotzenberg, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes tabacologue et secrétaire général de l'Alliance contre le tabac. Et c'est le moment de retrouver le docteur Catherine Solano. Docteur Catherine Solano, sexologue, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, on va parler contraception, les relations de la contraception avec la sexualité. Et forcément une question, hein, est-ce qu'il y a un lien entre l'épanouissement, une sexualité épanouie et la prise d'un mode de contraception?
Alors certainement oui, parce que quand on lit, moi j'ai lu des livres d'il y a 50 ou 60 ans, c'était l'horreur. Il y avait des femmes de 25 ans qui disaient « je veux plus faire l'amour avec mon mari, on a déjà 5 enfants, qu'est-ce qu'on va devenir si ça continue ?» Donc effectivement, les couples sont libérés de la peur d'avoir des grossesses non désirées, et ça c'est important dans un monde en plus où on se sent extrêmement responsable par rapport aux enfants. Mais malheureusement, la contraception c'est pas encore totalement satisfaisant sur le plan sexuel, parce qu'il y a des enquêtes qui montrent à quel point les femmes sont satisfaites de la contraception, et je vais vous donner les chiffres. 57% des femmes qui ont une contraception définitive, ce qu'on appelle la ligature des trompes, sont satisfaites sexuellement. 44% des utilisatrices de pilules sont satisfaites sexuellement, 30% des utilisatrices de stérilets sont satisfaites sexuellement et 11% seulement des utilisatrices de préservatifs. Donc c'est des chiffres très intéressants, ils sont pas très connus et on s'aperçoit que la satisfaction sexuelle par rapport à la contraception, c'est en dessous de 50%, sauf pour la contraception définitive, mais évidemment ça peut pas concerner toutes les femmes. Quand on est jeune et qu'on n'a pas eu d'enfant, on va pas faire une ligature des trompes.
Alors justement, pourquoi ces chiffres assez étonnant, vous l'avez dit, ce lien entre ligature des trompes et sexualité épanouie et satisfaisante?
Eh bien, je pense que la ligature des trompes, pour les femmes qui ont déjà eu des enfants, c'est une contraception, vous prenez aucun médicament, aucune hormone, donc il n'y a aucun effet indésirable et il n'y a aucun corps étranger dans votre corps. Donc, sur le plan chimique, ça n'a pas d'action. Et puis, d'autre part, une fois que c'est réalisé, ben, vous n'avez plus besoin d'y penser, c'est fait, vous pouvez être sereine. Donc, c'est une contraception, quand elle est bien adaptée, qui est excellente.
On a souligné les effets, les bienfaits, les effets positifs. Est-ce que, malgré tout, il peut y avoir des effets négatifs, docteur Solano?
Ben, par exemple, le préservatif, évidemment, son utilisation, c'est indispensable, mais c'est pas évident. Déjà, pour les hommes, il y en a 72%, ça fait beaucoup, ça fait les deux tiers qui disent, ben, moi, j'ai déjà eu une panne avec le préservatif. Donc, ça les stresse un petit peu quand ils le mettent en place. Et puis, du côté des femmes, il y en a que 11% qui disent qu'elles sont satisfaites. Donc, c'est que c'est pas une contraception idéale, même si c'est très utile et indispensable.
Et qui est très utile, oui, bien sûr, pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Mmh. On parle de la pilule maintenant, hein. A priori, moins d'inconvénients.
Voilà, la pilule, il y a beaucoup plus de femmes satisfaites. Donc, 40% de femmes sont satisfaites, mais ça en fait quand même 60% qui ne le sont pas. Et la raison de l'insatisfaction, c'est très souvent les difficultés sexuelles qui sont la cause numéro un d'arrêt de la pilule. Il faut savoir que sous pilule, il y a entre 20 et 40% des femmes qui disent « moi, j'ai beaucoup moins de désir sous pilule ». Il y en a quand même 6% qui disent « moi, j'ai plus de désir sous pilule ». Et puis, il y a une disparition de la fluctuation du désir, c'est-à-dire il n'y a plus de pic de désir au moment de l'ovulation. Pourquoi ? Parce que la pilule, ça fait diminuer la testostérone, qui est l'hormone du désir chez la femme. Et donc, quand vous prenez la pilule, les ovaires produisent moitié moins de testostérone. Et quand elle est dans le sang, elle est beaucoup moins active. Donc, c'est pas terrible. Ceci dit, il y a des médecins. En plus, il y a des médecins qui prescrivent des pilules anti-acné, qui sont des pilules encore plus anti-testostérone, donc encore plus anti-désir.
Alors, docteur Solano, justement, un petit peu plus d'explications au sujet de la testostérone. Qu'est-ce que ça a à voir précisément avec le désir chez la femme ?
C'est que le cerveau d'une femme a besoin d'une légère imprégnation en testostérone pour avoir du désir. Quand il y en a trop peu, vous avez moins de réactivité sexuelle, moins de désir, moins de fantasmes sexuels, etc. Et donc, moins de désir. Et donc, c'est dommage parce que la contraception, son but, c'est pas seulement de ne pas avoir d'enfant, c'est quand même de pouvoir faire l'amour normalement. Donc, si on n'a plus du tout d'envie avec la contraception, c'est pas terrible.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Par exemple, plus de libido sous pilule, ça veut dire qu'il faut changer de contraception ?
Alors, on peut changer de pilule, pas forcément changer de contraception, parce qu'il y a des pilules qui ont moins d'action sur le désir. En particulier, il y a des pilules qui ont une légère tendance à donner de l'acné. Bah, c'est pas agréable, mais ça veut dire que ça a tendance à pas baisser la testostérone, parce que un peu trop de testostérone, ça a tendance à donner de l'acné. Donc, les pilules anti-acné sont anti-désir, les pilules qui donnent de l'acné sont plutôt pour le désir.
Et docteur Solano, pour les autres méthodes contraceptives ?
Alors, la ligature des trompes et la ligature des canaux déférents chez l'homme, je disais que, et vraiment, il y a une très, les gens sont très satisfaits. Néanmoins, il faut pas forcément se précipiter dessus, parce que sur le plan psychique, c'est un geste qui n'est pas anodin. Quand vous savez que vous allez faire l'amour et que vous pourrez plus jamais avoir d'enfant, des fois, disons que ça enlève une dimension importante à l'acte amoureux, même quand on a déjà des enfants et qu'on n'en veut plus. Et donc, quand on a des réticences, il faut pas se forcer, il faut vraiment réfléchir. Sinon, sur le plan sexuel, il y a des fois des blocages.
En tout cas, on peut dire que la contraception s'adapte à chacun, pas de contraception universel idéal.
Non, voilà, je me dis, je rêve toujours qu'on puisse inventer la contraception idéale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet secondaire, qui est hyper efficace, qui est facile à apprendre, mais malheureusement, on ne l'a pas encore trouvé et je sais qu'il y a beaucoup de recherches dans ce domaine.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Je rappelle que vous êtes sexologue. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu, aujourd'hui Nicolas Benita. Et demain, vos questions sur la nutrition et l'activité physique avec nos deux chroniqueurs en studio. Stéphane Besançon, nutritionniste, et le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport. Toutes vos questions, bien sûr, au 33 84 22 75 75.
Et Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.